Alors, frères et sœurs, nous pouvons ensemble constater ce matin, à la fois l'Évangile nous donne un extraordinaire descriptif d'un geste posé par Jésus, et en même temps nous voyons une formidable coïncidence, concordance de temps. En effet, une fois encore, avec ce passage de l'Évangile de Matthieu, nous voyons Jésus, pour reprendre une très belle expression du cardinal Coffi, un Jésus qui échappe à grands coups de rame, à l'agitation hostile et à sa renommée croissante. Nous le voyons, Jésus part au désert. Toutes les Écritures l'attestent, Jésus ne peut pas se passer d'un lieu qui permette un dialogue privilégié avec son Père. Et force est de le constater, c'est une indication forte pour nous encore aujourd'hui concernant l'activité missionnaire itinérante. En effet, il ne peut pas y avoir d'évangélisation qui se suffise à elle-même. Tout acte d'évangélisation a besoin de se ressourcer dans la prière. Et de même, toute prière doit normalement nous conduire à proposer, à partager notre foi. Alors bien sûr, qui connaît la douceur des nuits d'Orient après la chaleur écrasante du jour, on pourrait dire que de façon récurrente, ça nous arrive de plus en plus souvent en Europe et de façon significative en France. Oui, qui connaît la douceur des nuits après la chaleur écrasante du jour, mesure ce que veut dire se retrouver seul, à la fraîche, comme on dit, avec le Seigneur. Aujourd'hui encore, comme Jésus, nombreux sont ceux qui ont la tentation, le désir de fuir au désert. Et nous pourrions prendre de façon symbolique les images que nous avons pu voir à l'actualité hier, tous ceux et celles qui quittent les villes pour pouvoir prendre un temps de repos dans cette période estivale. Et précisément, sans doute que l'une des questions que nous pouvons porter aujourd'hui et dans les prochains jours, oui, quel temps nous dégageons dans nos déserts pour pouvoir permettre un dialogue privilégié avec le Père. Alors regardons maintenant l'attitude de la foule. En effet, cette foule sort des villages pour se mettre à la poursuite de Jésus. Cette foule cosmopolite, parce que nous nous trouvons, rappelons-le, dans la Galilée, dans la Haute Galilée, carrefour des nations. Oui, cette foule cosmopolite s'est éprise de Jésus. Pour les uns et les autres, il est une sorte de démiurge dont la parole illumine une existence morose et dont les gestes sont des gestes de réconfort, de miséricorde et de guérison. Alors cette foule se met en marche et on a le sentiment que rien, absolument rien, ne l'arrêtera. Ni le désert, ni la faim. Et l'évangéliste nous décrit une foule qui précède Jésus sur le rivage afin de l'accueillir, de le fêter, de l'écouter. Et voici que Jésus s'éprend de tous ces gens qui le cherchent, tandis que ceux qu'il veut rejoindre le rejettent. Étonnant contraste, qui correspond, nous le mesurons bien, pour une part, à l'ère du temps. Et nous voyons bien cette similitude entre Jésus qui veut rejoindre ceux qui le rejettent et ceux qui veulent absolument accourir et l'entendre. Cela dit quelque chose de l'Église de notre temps. Et nous voyons bien que Jésus est saisi de pitié devant cette foule, et en particulier devant ceux et celles qui sont marqués par l'infirmité. Mais dans le récit évangélique, il va y avoir une étape supplémentaire que nul n'attendait. En effet, en plus de les guérir, de les nourrir de sa parole, Jésus, parce qu'il est interpellé par ses disciples, va les nourrir. Et tout à l'heure, frères et sœurs, lorsque nous prierons la prière universelle, nous ne manquerons pas de penser à l'attitude des apôtres. Ils interpellent Jésus au bénéfice de la foule. C'est exactement ce que nous ferons. Interpellez le Seigneur pour tous nos frères et sœurs en humanité. Et voici que Jésus donc pose un geste où la nourriture est surabondante. Et cette nourriture surabondante, bien entendu, préfigure la nourriture éternelle que devient Jésus lui-même par sa mort et sa résurrection. Et entre la foule et Jésus, ce jour-là, il n'y a plus besoin de paroles, mais des gestes, comme deux êtres attirés l'un par l'autre. Chacun a donné ce qu'il a. La foule a donné sa confiance avec 5 pains et 2 poissons. Et Jésus, ému par ses opiniâtres, donne au-delà de leur attente. 5 pains, 2 poissons. Les ressources cachées sont mises au jour, c'est le partage. Et cela va être aussi l'abondance et la surabondance. Il reste, nous dit Matthieu, 12 corbeilles. 12 corbeilles, cela veut dire de quoi nourrir les 12 tribus d'Israël. Et au-delà des 12 tribus d'Israël, l'humanité entière, puisque le chiffre 12 dans la Bible est celui de la plénitude. Et nous voyons bien que ce qui commence à naître à cet instant, c'est l'Église. Observons bien, la cohue au désert prend maintenant l'allure d'une assemblée. Les disciples organisent la foule. Et nous voyons devant nous s'ébaucher une liturgie. En effet, levant les yeux au ciel, Jésus prononce la bénédiction. C'est ce que nous voyons poindre et c'est l'Eucharistie venant rassembler l'humanité tout entière pour le festin messianique. Vous le savez sans doute, et un certain nombre parmi nous ont eu la chance déjà de vivre un pèlerinage en Terre Sainte. Il y a à Tabgha, là où dans la grande tradition de l'Église on fait mémoire près du lac de Tibériade de la multiplication des pains, il y a une église byzantine avec une magnifique mosaïque mondialement connue du IVe siècle. Et on voit entre autres la représentation d'une corbeille. Et lorsqu'on regarde un peu rapidement, on se dit, bah oui, il y a les 2 pains et les 5 poissons. Et en fait, si on fait très attention, on s'aperçoit qu'il y a 2 poissons, mais il n'y a que 4 pains. Et là, on se pose la question, mais où se trouve le 5e pain? Et notre regard se porte sur l'autel qui est juste au-dessus de la mosaïque. Et bien entendu, cela nous fait penser à ce que nous faisons à chaque célébration eucharistique, ce qui va être fait dans quelques instants. Au moment de l'offertoire, les hosties sont posées sur l'autel et en particulier la grande hostie. Et cette grande hostie, évidemment, à Tabgha, c'est le 5e pain. Et c'est l'invitation pour nous à faire un lien très fort entre la multiplication des pains et l'Eucharistie, où Jésus se donne en surabondance. Jésus se donne pour rassasier l'humanité. Alors je nous invite pour conclure à méditer ce qu'écrivait le cardinal Vanois. La multiplication des pains a pour but de nous enseigner que Dieu nous donne une nourriture, l'Eucharistie, non pas pour elle-même, mais pour développer en nous la capacité d'aimer. Frères et sœurs, c'est un rappel très fort. Ce que nous célébrons, ce n'est pas l'Eucharistie pour elle-même, mais c'est pour nourrir notre vie afin d'aimer selon le cœur de Dieu. Et le cardinal Vanois de préciser, l'Eucharistie développe en nous notre capacité d'aimer, et cela en nous insufflant une joie profonde. La plus grande joie qui soit, celle qui consiste à aimer généreusement, selon le cœur de Dieu.